Chrisfield.
Bienvenue à la radio CRGA. Un bon lever ce matin, un bon café pour débuter sa journée. Et nous, bon, on débute ça avec vous, bien sûr, Annie Martin, en présentant le tout premier bulletin d'information locale. Oui. Alors, Annie, on parle d'une résidence à Gatineau pour héberger des étudiants de Graceville à faible coût.
Oui, exactement. Les résidents de Messine, Vicky Veilleux et Michael Mercier, ont acheté une maison à Hull dans le but d'héberger des étudiants de la vallée de la Gatineau. Le couple d'enseignants espère ainsi aider leurs étudiants à accéder plus facilement à des études supérieures. L'enseignante à l'école de Gracefield, Vicky Veilleux, explique d'où est venue l'idée de cette initiative qui est partie en partie inspirée de la célèbre émission Chambre en ville.
On s'est aperçu que certains de nos élèves qui avaient un super beau potentiel pour faire des études postsecondaires, quand ils arrivaient en ville, bien, des fois, il y en a qui n'avaient pas le soutien, soit financier ou soit familial, pour pouvoir poursuivre leurs études. Parce qu'on s'entend, quand on part de la vallée de la Gatineau puis on débarque à Gatineau, des fois, c'est un peu la jungle. Hein. Moi, je suis de la génération que j'écoutais Chambre en ville. Là, que on s'est dit que ça serait cool de faire quelque chose du genre pour accueillir nos élèves.
Les inscriptions sont présentement ouvertes et les premiers étudiants pourront y aménager en automne cette année. L'objectif est de rassembler les étudiants qui se connaissent et qui pourraient prendre charge différentes responsabilités. C'est ce que précise celle qui est également propriétaire de l'entreprise Carpe Diem Aventure.
Pas une maison de chambre que les gens, on les connaîtra pas. Là. C'est pas ça le but. Le but, c'est pas de faire des sous non plus. Le but, c'est vraiment de permettre à nos élèves d'avoir un pied à terre à Gatineau qui soit de façon adéquatement encadrée, mettons, là, qu'on peut leur permettre ce soutien-là. L'idée est venue de ça. C'est pas mal ça là, qu'on est en train de réaliser. C'est vraiment cool.
Le couple d'enseignants souhaite même aller plus loin et lancer d'autres projets similaires à Montréal ou Québec.
Persuadée que ce modèle-là peut être exportable. T'sais, on a des élèves de la Haute-Gatineau qui veulent poursuivre à l'université, par exemple à Montréal ou peut-être même à Québec. Je nous souhaite ça. T'sais, dans un futur pas si trop lointain, ça serait génial qu'on ait ce modèle-là un petit peu dans les grands centres là, pour permettre d'avoir des études encore plus poussées. Ça serait génial.
Cette action a été rendue possible grâce au soutien financier de la Fondation Gilles et Jocelyne Ouimet.
Je me demande bien qui va jouer le rôle de Louise Deschâtelet là-dedans.
Oui, moi aussi, je me suis posé la question.
Que c'est une belle initiative.
Tellement belle.
Oui. Annie, plus qu'un mois avant le fameux Festival d'eau vive de la Haute-Gatineau.
Oui, la date du début du Festival d'eau vive de la Haute-Gatineau se rapproche à grands pas. Il se tiendra du 22 au 24 août prochain à Maniwaki. Le président d'Action plein air Haute-Gatineau et Festival de la Haute-Gatineau, Étienne Soutière et son équipe sont en plein dans les préparatifs. Il affirme que les préparatifs avancent bien malgré quelques problèmes rencontrés et qu'ils sont actuellement dans la phase de lancement des inscriptions.
Ça va très, très bien cette année. En fait, on a eu un petit enjeu là, au niveau de la sortie, au niveau de la rivière, là, parce que le Bonnet Rouge là, a fermé ses portes là, cette année, mais on a eu des accords là, avec des propriétaires privés là, pour qu'on puisse au moins, lors du festival, de pouvoir avoir un droit de sortie. Au moins ça, c'est qu'année. Donc, le festival aura bien lieu cette année là, en bonne et due forme. Puis, on est rendu là, à lancer en fait les inscriptions là, pour les festivaliers.
Des personnes de tout le pays, mais aussi de l'étranger, font le déplacement pour participer à l'événement. Le format de cette année ressemblera assez à celui de l'année précédente, mais quelques nouveautés seront ajoutées.
On essaie toujours d'ajouter des petites nouveautés. Là. Cette année, on a grandi le chapiteau, donc ça, c'est quand même intéressant. Puis on est en train d'organiser un petit milieu de vie qui va être un petit peu différent des autres années. Mais au niveau de l'ambiance du festival, ça va toujours rester quelque chose là, qui revient d'année en année. Donc, puis je pense que les amateurs aiment bien ça aussi. C'est des belles retrouvailles. Il y a aussi le Festival d'eau vive. Il y a des gens de partout au niveau de la province qui viennent. Puis pas juste au niveau de la province, on en a aussi qui viennent de l'Ontario.
Les tentes seront installées à la cité étudiante de la Haute-Gatineau. Des navettes seront mises à la disposition des participants pour se rendre à la rivière Gatineau. Les organisateurs espèrent près de 400 participants cette année. Pour participer au festival, vous pouvez vous rendre sur la section inscription du site web du Festival d'eau vive de la Haute-Gatineau.
Journée organisée par la communauté de Ketigan-Zibi en Anishinaabeg et ça s'appelle Family Fun Language Activities.
Oui, c'était samedi après-midi dans le cadre d'un week-end organisé par la communauté de Ketigan-Zibi en Anishinaabe, une journée spéciale pour promouvoir l'importance de la langue autochtone et des valeurs qui s'y rattachent. Toutes les activités qui ont été présentées à la plage Wanaki de Ketigan-Zibi étaient réservées exclusivement pour la communauté. Ils ont été plusieurs à se rendre sur place pour à la fois célébrer et souligner les traditions traditions et principes autochtones de la communauté algonquine. Le comité organisateur avait prévu une belle programmation pour la journée. Chants autochtones, activités éducatives, barbecue servis toute la journée et prix de présence. Le chef du conseil de bande de Kitiganzibi, Jean-Guy White-Duck, est fier de sa communauté. Il précise que malgré les efforts et le travail qui est mis en place, la santé de la langue reste fragile.
Il y a beaucoup d'efforts ici au niveau de la langue, là, de survivre qu'à survivre. Il y a beaucoup de travail qui est fait au niveau local et ça continue. C'est souvent pas une question de fond, là. C'est une question d'avoir les travailleurs, les ressources humaines nécessaires pour vraiment monter des bons dossiers. C'est un challenge pour toutes les communautés, surtout les communautés plus au sud, là, les communautés plus isolées, n'ont pas de problème avec la langue. Mais les communautés comme la nôtre, elle est touchée beaucoup. Alors, il y a un effort à faire, un super effort à faire pour s'assurer la survie de la langue.
L'activité de samedi fait partie intégrante d'une planification pour protéger la langue autochtone. M. White-Duck confirme que les gens de la communauté de Kitiganzibi Anishinaabe participent en grand nombre aux différentes activités.
Les activités près des lacs avec les étudiants, les enfants, les jeunes, les familles qui veulent participer. Là. La participation monte. Il y a des journées que c'est bon, d'autres jours, il y en a moins. Mais il y a toujours beaucoup d'activités l'été, alors ça n'amène pas toujours à donner raison. Mais surtout, ça fonctionne. Nos activités, on amène les gens ensemble presque tous les jours. Et on donne la permission à nos travailleurs d'y aller aussi, de participer pour s'impliquer à apprendre la langue.
Les communautés autochtones qui sont situées plus au sud du Québec, comme celle de Kitiganzibi, sont les plus touchées par le problème de la survie de la langue.
Et le Québec envoie du renfort du côté du Manitoba, Saskatchewan et à Terre-Neuve et Labrador.
Oui, la Société de protection des forêts contre le feu a annoncé lundi dernier que deux avions-citernes du service aérien gouvernemental du ministère des Transports et de la Mobilité durable et leur équipage se sont envolés pour Terre-Neuve et Labrador. Aujourd'hui même, 60 pompiers forestiers seront déployés au Manitoba et 40 pompiers forestiers seront déployés en Saskatchewan. Les pompiers seront accompagnés par 4 représentants de la SOPFEU. Ils partiront de l'aéroport international Jean-Lesage et de l'aéroport régional de Val-d'Or ce matin. Depuis le début de l'année 2025, le Québec est venu en aide à la Californie, au Manitoba, à la Saskatchewan, à l'Alberta, au Yukon, à l'Ontario et à Terre-Neuve et Labrador. Il est à noter que 100 pompiers forestiers qui étaient déployés en Saskatchewan depuis le 7 juillet rentreront au Québec aujourd'hui. Depuis le début de la saison des feux de forêt au Québec, les 148 incendies combattus en zone de protection intensive ont affecté 131,3 hectares de forêt, alors que la moyenne des 10 dernières années est de 352 feux à pareille date. Malgré ce bilan très positif, la SOPFEU invite la population à redoubler de prudence en cette période estivale, au cours de laquelle de nombreux vacanciers et villégiateurs font des activités en forêt.
Exactement. Et c'est sûr que la plupart des incendies, en tout cas beaucoup, c'est causé par...
Souvent.
Nous, les humains. Donc, voilà, c'est
exact.
D'être prudent de ce côté-là.
Oui.
Annie,
oui.
7h30, on se retrouve pour le bulletin de...
8h.
Exactement.
À tantôt.
Bye.